bienvenue donc dans cette émission, à vous chers invités et à vous tous, chers auditeurs, nous allons donc discuter.
Merci d'avoir accepté de nous donner ces petits moments. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que ces cafés de presse, nous ne les faisons pas seuls comme Coracon, nous les faisons avec l'organisation Internews, qui est une organisation internationale. C'est en cette substance que je vous présente l'équipe Internews, qui est représentée ici par 3 personnes. Merci beaucoup et bienvenue à toute l'équipe d'Internews. Avec ça, je peux vous demander à vous tous, si vous êtes d'accord, que nous puissions faire un applaudissement pour arroser cette salle de ce que j'appelle les climats d'échange. On y va ? Nous voulons tous comprendre Ebola. Nous souhaitons qu'en comprenant Ebola, nous puissions nous impliquer davantage. Il y a de l'ignorance sur Ebola. Il y a de l'ignorance sur l'importance qu'on accorderait à cette maladie à terme d'intervention, à terme d'implication personnelle, à terme d'implication du média, à terme d'implication de l'organisation de la société civile, à terme d'implication en tant que parent ou en tant que chef de groupe donné. J'ai suivi que parmi vous, il y a des responsables d'école, des instituts supérieurs, des universités. Partout là, on a besoin des implications. Mais quelle est l'importance qu'on donne à Ebola? Parce que Ebola, c'est un élément qui vient entrer dans un certain contexte que nous avons. J'ai dit, je suis presque sûr que vous tous êtes convaincus que Ebola existe. Mais je ne suis pas totalement sûr. Et on va peut-être les sentir dans les échanges. Donc, je dis ça pour dire, il y a même aujourd'hui des gens qui pensent qu'Ebola n'existe. Si déjà il y a des doutes comme ça, ça veut dire qu'il faut vraiment des réflexions profondes. Tout en étant sûr qu'Ebola existe pour la plupart des gens, tout en étant sûr qu'il y a eu des efforts, par exemple du côté du personnel médical, du côté des politiques, des efforts du côté aussi des médias, pour vraiment riposter contre l'épidémie à virus Ebola. On sait aussi qu'il y a eu beaucoup de rumeurs où les gens disent « Non, écoutez, Ebola est amené par un groupe de gens. » Où les gens ont dit « Écoutez, Ebola n'existe pas. » Où les gens ont dit « Écoutez, Ebola, c'est plutôt une machination. » Et on veut couper les organes. Pendant tout ce temps, on a vu par exemple que certaines réactions, certaines personnes dans cette communauté se sont même attaquées au centre de traitement d'Ebola. Ça, c'est un peu le contexte que vous connaissez. Mais entre-temps, le nombre de victimes augmente. Ouais. On est à plus de 800. Vous lisez régulièrement le bulletin du ministère de la Santé. Voilà pourquoi nous sommes ici, mesdames et messieurs. On doit réfléchir. Comment nous impliquer? Comment faire davantage? Je sais qu'il y a aussi des bonnes volontés parmi vous, mais qui ne savent pas comment faire, par où commencer, où est-ce que je dois avoir les formations. Est-ce que si je dis ça, j'ai dit du bon, si je dis cela, j'ai dit du mauvais. Donc c'est tout ça qu'on va essayer d'épuiser dans notre réflexion d'aujourd'hui. Donc mesdames et messieurs, Karibou, bienvenue. Pour commencer ce débat, je voudrais que vous puissiez écouter un son. Ce son-là, c'est le son de l'homme de la rue de Goma. Nous avons envoyé un journaliste sur le terrain pour qu'il pose la question à l'homme de la rue, ce qu'il pense d'Ebola, ce qu'il sait d'Ebola et ce qu'il pense d'Ebola. Voilà, donc chers panélistes, vous allez aussi écouter le son et ça va vous donner aussi une idée sur les types de commentaires que vous souhaiterez.
Je connais que la maladie d'Ebola, c'est une maladie contaminée. Quelqu'un qui est attrapé par l'Ebola, les symptômes se manifestent pendant après 21 jours et il y aura les maux de tête, l'hémorragie.
En tout cas, je ne sais rien sur Ebola, mais j'ai enterré l'enfant de mon grand frère qui vomissait du sang. On ne sait pas si c'est Ebola ou si c'est du poison jusqu'à maintenant.
D'après ce que nous avons pu acquérir comme connaissance, c'est une maladie d'origine animale. Et surtout les animaux qui meurt, il est surtout interdit de manger ce genre d'animaux.
La maladie Ebola est une maladie grave et très contagieuse. C'est salut avec quelqu'un qui est attrapé par la maladie Ebola.
C'est du mensonge. On n'a pas Ebola ici à Nord-Kivu. Ne font pas nous paniquer pour dire que soi-disant il y a Ebola dans le Nord-Kivu. Non, si c'est les autorités qui autorisent les blancs, c'est les blancs qui amènent ça.
J'entends Ebola comme un virus qui est parvenu quelque part. On ne sait pas l'origine d'Ebola, d'où est parvenu l'Ebola. Quand quelqu'un, on dit il est attrapé par la maladie d'un virus Ebola, par exemple, c'est quand on voit le sang, l'hémorragie au fait.
Ebola, vraiment, c'est une maladie qui se transmet avec des personnes contaminées. Si on se croise, là, vraiment, on peut avoir l'Ebola. Maintenant, il faut se protéger contre ça. Si vous voyez des sons un peu partout, on installe pour se laver les mains, il ne faut pas négliger ça vraiment.
Existe-t-il réellement Ebola? Pourquoi les habitants de Beni n'ont jamais fui? C'est qu'il y avait d'autres objectifs pour que les gens abandonnent leur maison.
La maladie d'Ebola, je connais que c'est un virus qu'on a découvert en Équateur, dans la forêt, bien sûr, vers les années 1900. Pour l'Ebola, je sais que l'Ebola, c'est une épidémie, avec ce signe notamment de vomissement, diarrhée, des saignements sans limite.
Je ne crois pas à l'existence d'Ebola. Je n'ai jamais entendu cela, ni même vu.
Vous avez donc suivi le Vox Pop, produit par le journaliste Prosper, à qui nous disons merci. Nous savons aussi que les types de comportements que les gens peuvent adopter peuvent dépendre des politiques qui sont mises en place ou peuvent dépendre du mot d'ordre que donne l'autorité. L'autorité est écoutée, n'est-ce pas? Mais pour le moment, on a besoin d'écouter un homme, le représentant du gouvernement provincial dans cette activité, qui va essayer de nous esquisser vraiment à 2 ou 3 minutes l'implication du gouvernement provincial. C'est quoi? La politique du gouvernement provincial pour lutter contre les calamités, contre les épidémies comme Ebola. Donc vous avez la parole, monsieur.
Bien, je vous remercie. Je crois que, comme un non-médecin, je ne vous parlerai pas de détails techniques, mais je vais aborder plutôt le problème d'un certain nombre de maladresses organisées par l'administration nationale et un peu locale vis-à-vis de la réalité du virus à Ebola. Et je crois que je suis très heureux de parler de ça en présence des hommes de la presse, que la communication, c'est l'arme la plus fondamentale de tout comportement sociologique des hommes. Au niveau du début de la... Nous avons appris qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la maladie avait commencé à pratiquement tuer près de 14 000 personnes, je crois. Je ne sais pas le chiffre correctement. Mais chez nous, on a retrouvé ça au niveau de l'Équateur. Au niveau de l'Équateur, la maladie est pratiquement récidiviste. Et Dr Mouyembe, un Congolais, a déjà un certain nombre de maîtrises de ces histoires. Bon, la politique d'État dedans, la politique internationale, bon, on ne va pas trop le proposer. Mais je suis en train de dire que le docteur de la santé, quand il a appris que nous avions l'Ebola au niveau de Beni, mais on est arrivé là-bas avec un certain nombre de maladresses. Des maladresses en communication. Vous venez de Kinshasa avec un certain nombre de gens qui ne connaissent pas la langue locale et qui doivent communiquer soit en lingala, soit en français. Les gens ont énormément de problèmes. En termes sociologiques, chaque fois qu'on aborde un milieu donné, qu'on tienne compte des considérations sociologiques de ces milieux-là. J'ai entendu un Vox Populi avant-hier, ou des gens de là-bas qui disent tulionaka magari na kuya mingi ya muzuri na batundani banavala muzuri banakuya kusema banakuya kutuponesha. Bon, la population pauvre là-bas qui voit des gens avec des jolis habits, des véhicules pimpa neufs, bon, les gens ont quand même le droit de se poser des questions. Est-ce qu'ils viennent nous sauver ou bien ils viennent se sauver eux-mêmes? À ce niveau-là, il y a une communication en langue qu'on devrait mettre en place avec des natifs locaux. Parce que, bon, nous avons des sociologies différentes. Hein? On se méfie des gens qu'on ne connaît pas. Mais moi, je comprends que Ebola existe, mais Ebola doit être abordé avec méthode, l'administration provinciale a réussi à corriger ces maladresses du début. Il faut dire aux gens ce qu'ils sont capables d'écouter. Je considère que si vous communiquez bien, le résultat doit être positif. Si vous ne communiquez pas bien, vous aurez les résultats du type les gens qui arrivent quelque part et ils commencent à détruire les centres de santé. Parce qu'ils ne comprennent pas. Je crois que la communication a fait des preuves au niveau de la planète aujourd'hui.
Merci, monsieur le conseiller, pour ce point de vue que je trouve très pertinent. Beaucoup de problèmes de communication, le gouvernement, aussi bien provincial que national, souhaite qu'on communique plus et correct. Ça, c'est parmi les choses qui ont motivé cette activité ici. Mesdames et messieurs de la presse, nous sommes ici pour apprendre comment mieux communiquer sur Ebola. On essaye maintenant de venir petit à petit vers communicateurs, justement, les communicateurs et les journalistes. C'est avec Madame Rosalie qui va essayer de nous dire aujourd'hui la Corporation des journalistes, elle qui est la présidente de l'UNPC. Madame, est-ce que vous êtes satisfaite de ce que les médias font déjà actuellement dans la riposte pour mieux communiquer sur la riposte?
Merci beaucoup, Jacques. Nous sommes appelés à parler sur les enjeux et les défis majeurs liés à l'implication des médias dans la riposte contre Ebola. Comme l'a dit le conseiller du gouverneur, la communication, elle est essentielle pour accompagner la communauté à comprendre le travail qui est mené par les différents acteurs. Au niveau d'ici, moi je ne veux pas rentrer sur ce qui se passe à Beni. Nous parlons de Goma, où tout est fait pour que la maladie n'atteigne pas cette ville. Qu'est-ce que nous pouvons faire comme médias? Quel est notre travail pour aider la communauté? Je pense qu'on l'a écouté dans les Vox Pop. Pour que la communauté adopte de bons comportements, il faut une communication adéquate, une communication bien appropriée. Mais nous avons des défis comme journalistes pour jouer les rôles qui est les nôtres dans cette riposte. Le premier défi que je vais évoquer, c'est le défi des formations. Comme Jacques a dit au début, il y a des personnes, des leaders qui ne croient pas en l'existence d'Ebola. Il y a aussi la population, les citoyens lambda qui ne croient pas dans l'existence d'Ebola. Je pourrais continuer en disant, est-ce qu'il y a aussi des journalistes qui ne croient pas qu'Ebola existe? Je ne sais pas. Mais jusque-là, il y a un défi de formation. Je pense que c'est la première fois qu'on se retrouve comme journaliste. Et là, c'est un atelier mixte, hein, c'est un café de presse. C'est mixte, il y a aussi les acteurs de la société civile pour parler d'Ebola. Et ça, c'est un défi majeur. Si les journalistes ne sont pas eux-mêmes formés, comment ils vont donner la bonne information? On sera tenté de relayer les faits qui sont survenus. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est que nous, comme journalistes, nous avons notre code d'éthique et de déontologie qui guide notre travail. Il y a des articles sur lesquels nous revenons tous les temps. L'article 4 sur notre responsabilité. Et à notre niveau, nous le faisons. Mais il y a un défi des réseaux sociaux à côté de nous. Il y a des leaders communautaires qui, ne croyant pas à l'existence d'Ebola, écrivent ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Mais les journalistes, les défis que je vais relever, parfois, ils n'ont pas les moyens de réagir à temps. Donc la rumeur, elle va plus vite. Les journalistes n'étant pas lui-même formés, les leaders dans la communauté qui donnent une fausse information, et cette information, elle est vite relayée. J'imagine si les médias sont vraiment impliqués. Il y a une fausse information qui circule. Quelqu'un sur son téléphone a écrit à 9h. La personne qui a lu va vouloir écouter le journal à la radio à 13h. Il y a ceci qui circule sur les réseaux sociaux. Je vais écouter le journal. Qu'est-ce qui sera dit? Mais au journal de 13h, les journalistes ne font pas allusion à ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que les rumeurs courent librement. Il n'y a rien qui est fait pour corriger ce qui circule. Et au final, la communauté ne gobe que ce qui passe dans les réseaux sociaux. Donc la formation est des médias, des journalistes, mais aussi des leaders communautaires. Autre chose, les moyens des médias. Je peux bien voir qu'il y a une fausse information. Peut-être que moi, je suis formée. Nous avons les groupes Ebola. Bon, il y a ceux qui ont accès, qui lisent les bulletins qui sont diffusés. Une information pas du tout correcte qui circule quelque part sur les réseaux sociaux que je voudrais corriger. Mais à la rédaction, je me retrouve, j'ai pas de moyens. Il faut bouger. Ou alors, il faut appeler les médecins qui peuvent répondre. J'ai pas de crédit. Je fais quoi? Ça bloque aussi les médias. Dans nos rédactions, nous savons aujourd'hui que Ebola doit être traité. Nous, comme journalistes, avons la responsabilité d'informer la communauté. Mais est-ce que sur nos tables de rédaction, nous avons les contacts des communicateurs qui peuvent donner la vraie information? C'est à nous de faire notre travail. Il y a des défis, bien sûr, il y en a beaucoup. Mais notre responsabilité, comme journaliste, à être vraiment des responsables. Une seule personne non informée peut causer la contamination de tout un village ou de tout un quartier.
Voilà, la responsabilité de nos journalistes. Avons-nous les sources crédibles d'informations sur Ebola? Avons-nous un carnet d'adresses? Cherchons-nous à contourner les rumeurs qui circulent sur Facebook? Avons-nous les moyens pour la recherche? Est-ce que les patrons de presse essayent d'accepter que pour un dossier Ebola, on peut donner aux journalistes l'argent de transport lorsqu'il va chercher l'information sur Ebola? Ou bien est-ce que pour ça, il attend qu'un bailleur sorte l'argent pour qu'il produise l'information sur Ebola? Monsieur Eric Issa-Kalobera, parmi les défis qui sont évoqués et par le gouvernement provincial à terme de bonne communication et par l'UNPC à terme d'accès aux sources d'information, il y a vous, la commission de la communication. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts que vous faites à votre niveau. Comment ça se passe à la commission de la communication et comment les journalistes peuvent vraiment accéder à l'information? Vous avez la parole.
Merci beaucoup pour nous avoir associés à ce débat. Mais je voudrais préciser que la maladie à virus Ebola, c'est une réalité, c'est une maladie connue sur le plan scientifique. Les scientifiques le connaissent, un ancien nom qui était reconnu comme faisant partie de l'ensemble des maladies qui sont liées à provoquer des hémorragies. Mais avec le temps, vous reconnaîtrez que l'histoire de virus Ebola à notre pays fait tant que la première parution est arrivée en 1976, quand Mobutu était encore là, et nous avons la chance d'avoir à cette période le grand frère Rachidi, qui fut conseiller du fait président Mobutu à son paix à son âme. Le virus a été connu, ça a créé une catastrophe à Yamboukou en 1976. Et vous imaginez, sur 318 personnes qui étaient touchées par cette maladie, il y a eu 280 morts. Cette maladie, elle est dangereuse parce que non seulement elle provoque des morts, mais elle provoque aussi des blessés, des guerres, comme on peut le dire. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas ne pas comprendre que c'est une maladie, parce que ça a une histoire. Et cette histoire est dangereuse, a déjà provoqué des morts. Et le virus à Ebola reste dans le corps humain pour les hommes 500 à 800 jours, même 900 jours dans les spermatozoïdes, après avoir été guéri. Et pour la femme, au moins 9 mois, même si vous avez déjà été guéri. Ça reste dans les mamelles pour 9 mois. Donc ce qui fait que c'est vraiment, sur le plan scientifique, c'est un risque, c'est un danger. Maintenant, je voudrais arriver à la question que vous me posez pour dire mais comment améliorer la collaboration entre la coordination de la riposte et les médias qui sont dans la province. Quand on dit comment améliorer la collaboration, c'est qu'on doit se poser la question, la collaboration sur quoi? La collaboration entre qui et qui pendant cette période-là? De quel type de collaboration? On collabore de quelle manière? On collabore quand? Et pour quel type de résultat? Pour que cela soit, quand on parle déjà de mot collaboration, ça signifie que dans sa charge, on voudrait avoir une amélioration. On voudrait enlever les doutes. La confiance est là parce que on a l'expertise, on connaît, on se renseigne, on a l'information sur Ebola. À ce moment-là, on aura confiance de ce que vous dites.
Alors concrètement, messieurs les chefs de division,
oui,
comment faire?
Concrètement, comment faire? Ça signifie que nous devons créer la confiance dans la communauté. Et pour créer la confiance dans la communauté, ça signifie que tous les partenaires doivent parler le même langage. Ça signifie que tous les partenaires doivent suivre ce qu'on appelle les grandes orientations du niveau du gouvernement et avec tous ses partenaires, pilier par pilier. Pour la communication, il y a des orientations qui proviennent du niveau national, qui nous disent, voilà, nous avons tous l'obligation d'améliorer, de couper la chaîne de transmission, mais voici comment nous allons le faire. Et c'est cette manière-là que nous voulons que nous puissions le partager. Tous ces canaux de communication, nous nous mettons ensemble pour savoir comment communiquer, avec quoi communiquer, pour quels problèmes,
et pour quel type de solution et quel type de résultat. Le média fait partie des partenaires de cette task force communication. Parce que la grande question ici, c'est le rumeur. Mais le rumeur, c'est une conséquence de ce que nous appelons les incidences communautaires. Et les incidences communautaires s'expriment maintenant par les rumeurs, par les violences, s'expriment par le refus, par le rejet. Rejet de quoi? Des services qui sont disponibles. Le refus de tout cela, du moins ces incidents communautaires arrivent parce qu'il y a un faible engagement au niveau de la communauté.
Je voudrais que vous terminiez en répondant à la question de savoir est-ce que Ebola est déjà à Goma, oui ou non?
Ebola?
Par et oui ou non?
Non.
Ok, très bien. Merci beaucoup, messieurs les chefs de division. On va revenir à vous lorsque les grands journalistes qui sont ici vous posent des questions. Parmi les gens qui communiquent aussi dans la société, il y a la société civile. Etienne Kambale, comment vous arrivez à le faire?
Merci, Papa Jacques, pour m'avoir accordé la parole. L'implication de toutes les couches de la population de la ville de Goma et de la population du Nord Kivu en général, nous devons travailler d'arrache-pied pour que nous puissions apporter une solution à ces problèmes. Certaines personnes pensent que c'est un truc de blanc, et si au moins c'était un problème, toute la population de Beni allait fuir. Mais vous avez suivi un peu l'histoire qu'a donné le chef de division par rapport à cette situation. Mais il y a plusieurs acteurs de la société civile qui communiquent par rapport à ça, et dont certains communiquent n'ayant pas de vraies informations. Fait qu'ils sont libres à pouvoir communiquer. Mais tout en étant libre, on est partenaire de l'État congolais. Et notre mission, nous sommes la sentinelle. Et quand un sentinelle désoriente les patrons, vous voyez un peu les dégâts que ça crée. Nous devons aller nous ressourcer pour mieux parler, pour mieux communiquer, pour que les sentinelles puissent travailler et préserver les intérêts de la population. Autant Étienne Kambale et les micros, ils parlent. Il parle de n'importe quoi et dont il ne maîtrise même pas. Et quand il parle, il est en train d'exposer les patrons. Les patrons, c'est qui? C'est la population de la ville de Goma. Nous vous disons bien que la ville de Goma, il n'y a pas encore un cas, mais nous devons veiller tous, toutes les organisations de la société civile doivent travailler d'arrache-pied pour que le virus n'atteigne pas Goma. Mais si moi, Étienne Kambale, si Mario Ngavo et d'autres collègues vont dire « in business », je vous dis, ça va entrer. Quels sont les besoins de la population? La population a besoin d'être informée objectivement. Merci pour Coracon Internews pour nous avoir associés. Merci à la sous-commission communication. Mais nous devons faire un pas aussi, nous, acteurs sociaux.
Merci Étienne Kambale. Merci, chers intervenants, pour tous ces points de vue qui mettent déjà un tapis sur les types d'échanges que nous voulons faire. Je souhaite attendre maintenant, ce sont des expériences, deux volontaires parmi les acteurs médias et deux volontaires parmi les acteurs société civile, mais qui disent ce qu'il faut déjà dans le cadre de la riposte contre Ebola. Vous avez une minute. Oui, allez-y, monsieur Nassan. Que faites-vous dans la riposte contre Ebola? Attaque et média. C'est quel média?
Oui, je suis rédacteur en chef de Congo Média Plus et ça se raconte. Donc, le travail...
Un média en ligne, hein?
Oui, en ligne.
Ouais.
Le travail que nous faisons, les journalistes, c'est informer les gens sur tout ce qui se passe autour de cette maladie. Le travail que nous faisons, nous tous, c'est informer les gens. Et nous informons, comme vous l'avez dit, sans partenaire, mais nous nous forçons quand même à écrire. Bon, les gens qui peuvent visiter ce que nous faisons, ils peuvent découvrir des articles.
Vous avez produit combien d'articles jusque-là?
Jusque-là, nous en avons produit à peu près 5 articles. L'un des articles que j'ai écrit m'a beaucoup interpellé, m'a donné beaucoup de lumière sur
Pourquoi?
Ce qui se passe.
Pourquoi?
Dans le territoire de Beni et de Butembo, sur cette problématique en rapport avec la riposte. Alors, le coup de fil que nous avons passé pour s'informer, de savoir pourquoi les gens sont résistants, pourquoi ils s'attaquent à des centres de traitement. Alors, j'ai conclu qu'il y a deux choses. Pour l'État, je trouvais qu'on cherche ailleurs le problème, mais le problème, c'est le manque de confiance.
Merci beaucoup, monsieur Nassan. Merci. Mao, vous aviez demander à partager l'expérience. Donc bon. Ici, on retient que c'est un problème, donc les défis, c'est un problème de confiance selon les journalistes, mais aussi une communication qui aurait été déficiente. Mao?
Bonjour à tous.
Bonjour.
Je suis Mao Zikabe, correspondant Nord Kivu de Digital Congo. En tout, j'ai déjà réalisé 9 reportages sur Ebola. Mais 3 reportages m'ont plus intéressé parce que c'était de façon exceptionnelle. Dernièrement, j'ai fait un élément au niveau du festival à Mani par rapport aux mesures prises par les partenaires. Parce qu'au moins, c'est un festival qui a réuni plus de 40 000 personnes. J'ai eu un témoignage d'un jeune de 13 ans qui m'a dit que si moi je me lave aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a dit que mon oncle a disparu à Beni à cause d'Ebola. J'ai dit, comment a disparu? Il a dit non, c'est parce qu'il est mort et on ne sait même pas trouver sa tombe. J'ai trouvé que l'enfant, lui, a déjà un mauvais passé avec Ebola et que pour lui, se laver, c'était vraiment non seulement un devoir ou une mesure préventive, mais aussi une habitude parce qu'elle-même, l'enfant, comme c'était une fille, avait un petit savon dans sa poche. À Nyiragongo, j'avais réalisé aussi le même reportage par rapport aux écoles. Et jusqu'à présent, même s'il n'y a aucun lac, même s'il n'y a aucune rivière à Nyiragongo, mais dans toutes les écoles, on s'arrange pour avoir de l'eau et du savon pour se protéger. La question des méfiances en dehors des politiques était évoquée, mais si la population de Beni, Butembo, qui souffre déjà d'Ebola, n'arrive pas à prendre conscience, c'est parce que elle n'est pas directement impliquée dans cette lutte. Et une personne nous avait dit, comment expliquer que on vient lutter contre Ebola dans notre territoire? Premièrement, tout le personnel, ici nous avons des médecins, nous avons des infirmiers, mais la majorité de ceux qui travaillent dans ces CTE viennent de Kinshasa.
Merci. Nous avons un partage d'expérience. Les ONG, il y a la CBK.
Je suis Hulda Vaini, je travaille comme chargée de communication de la CBK. Je veux partager un peu ce que la CBK a déjà fait jusque-là. La CBK s'est impliquée dans la riposte de les débuts à Beni et à Butembo. On a organisé plusieurs rencontres avec les leaders locaux, avec les jeunes, avec les pasteurs, pour essayer de les former. Et c'est là, avec l'appui du département de santé de la CBK, mais aussi avec l'État et les partenaires de l'OMS. Et plus particulièrement, nos radios sont en train de faire un peu plus d'efforts pour informer la population, surtout quant à ce qui concerne la résistance. À Beni, c'était comme une surprise, une maladie, quelque chose de nouveau. Et au moins, on avait l'opportunité de donner les dangers et informer la population. Mais à Butembo, c'était quelque chose déjà connu. La population avait tendance à se mettre une barrière et à vouloir rechercher c'est quoi Ebola, effectivement. Les défis auxquels nous faisons face, bon, je ne sais pas s'il faut dire la commercialisation, mais de considérer la riposte comme un business. Et donc, les deals qui existent encore, c'est de voir comment vraiment convaincre la population que Ebola existe. Et à cela, j'ai bien retenu ce que Mme Rosalie a dit, chez Roger Tumpula, qui a dit tropicalisation de l'information. Il faut voir le contexte dans lequel les gens vivent. Il faut utiliser la langue. Il faut les informer de ce qu'il y a exactement et non venir avec des informations. Donc, il y a ces problèmes-là de communication entre la hiérarchie et la base. Parfois, ceux qui viennent pour la riposte, ce sont des gens d'ailleurs et ils n'utilisent pas beaucoup la communauté. Et on a tendance à penser que c'est quelque chose qui vient de quelque part. Et donc, on a besoin tous de former les acteurs de médias pour s'impliquer davantage dans ça.
Merci beaucoup. La dernière personne parmi les OEC, donnez son expérience, madame ici.
Parlement des jeunes. Merci beaucoup pour la parole. En fait, ce que j'aimerais dire par rapport à tout ce que j'ai à dire à propos d'Ebola et que premièrement, je me mets à la place de tout jeune du Kivu. Et je sens que la jeunesse n'est pas du tout impliquée dans tout ce qui est riposte Ebola. Et aujourd'hui, un jeune qui peut, une fois de plus, appuyer tout ce qui est riposte contre Ebola ou bien défendre, c'est presque perdu d'avance. C'est comme supporter Real de Madrid actuellement. C'est-à-dire, il n'aura pas la confiance des gens. Pourquoi? Par exemple, le week-end, j'étais en train de traverser de l'autre côté. Il y a les amis d'hygiène là-bas qui sont en train de... Les gens se lavent la main et puis il y a quelqu'un qui teste la température. La dame qui en train de tester la température. Elle n'est pas concentrée. Elle est en train de mettre et puis descendre sa main. Mettre et descendre sa main. Lorsque je suis arrivée à côté d'elle, lorsqu'elle a testé ma température, je voulais avoir, par curiosité, je voulais comprendre si, qu'est-ce qu'elle a remarqué. Je l'avais demandé, madame, ça vient de donner combien? Elle a regardé, mais non, elle a compris que ça ne fonctionnait plus même. Et puis après, elle m'a dit, ah, pite à tout. Lorsqu'elle m'a dit pite à tout, j'ai compris que directement, sans même me dire quoi que ce soit, moi, de mon côté, j'ai compris qu'elle n'y coopait. Peut-être à la fin de la journée, elle aura 10 dollars ou 5 dollars. Et c'est ce qui compte, en fait. Le reste, ça ne la regarde pas. Et puis, lorsqu'on rentrait, nous aussi, on a compris qu'elle y coopait. On nous demande de laver la main, on se dit, bon, il n'y a même personne qui est impliqué. Tout le monde est là seulement par formalité.
Mais à votre niveau, au niveau parlement, et des jeunes plutôt, vous faites quelque chose?
Par amour du pays, on est censé sensibiliser les gens que lavez-vous quand même le main, même
mais, si. Mais vous ne les faites pas encore.
On le fait. On le fait. Lorsque, même au bureau, il y a quand même quelques seaux où on se lave le main par routine. Mais je suis très sûr que, au fond là, des gens.
Merci
au
beaucoup.
Fond là, ça pose problème.
Merci beaucoup, madame. Nous avons suivi les expériences et je sais que. Il bouillonne beaucoup de questions d'avant.
Je suis un Tonton Lusambo, qu'on m'appelle, mais mon vrai nom, c'est Lusambo Igungu Maurice. Je suis un artiste et musicien. À mon actif, j'ai écrit beaucoup de chansons sur Ebola que je n'ai pas pu enregistrer. Mm-hmm. C'est déjà un manque à gagner pour la société parce que on ne s'occupe jamais des artistes dans des débats, dans beaucoup de choses. On les oublie souvent.
Tonton Lusambo souhaite enregistrer des chansons. Merci beaucoup.
Parce que je considère que médiatisation, je veux dire, la presse doit collaborer avec les artistes parce que ce sont des leaders d'opinion.
D'accord.
C'est ça.
Merci. On va se demander à Sample, est-ce qu'il y a des problèmes qui nous empêchent de mieux communiquer sur Ebola, de mieux informer sur Ebola? Et est-ce que nous pouvons améliorer ce que nous faisons déjà? Parce qu'à partir des expériences que vous venez de donner tantôt, on réalise que les médias essayent de s'impliquer, essayent de faire quelque chose. Il y a les bulletins comme à Ebola, avec la pertinente remarque de Monsieur le Conseil du Gouverneur, qui passe, qui est diffusé quand même dans 25 radios, et sélectionné au Nord Kivu, et à Nitouri. Il y a aussi d'autres spots qui ont été montés à gauche et à droite et qui sont diffusés pour donner des messages à la population. C'est laver les mains, faire ça. Ok. Il y a aussi des reportages. Il y a aussi, voilà, vous avez déjà fait beaucoup de choses. On peut pas dire que les médias n'ont rien fait. On ne peut pas dire que les acteurs de la société civile n'ont rien fait. Mais il faut qu'on aille dans les sens. Vos questions, il faut qu'elles aillent dans les sens de comment est-ce qu'on améliore ces systèmes-là? Comment est-ce qu'on arrive à faire plus? Est-ce qu'il y a des défis? Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Voilà. Je vous invite. Qui est le premier à se lancer à l'eau?
Moi, je suis révérend pasteur de la CEPAC.
Ok.
Je suis aussi coordinateur provincial adjoint des écoles conventionnées protestantes.
Ouais.
Non seulement je suis dans l'église, mais je suis dans les écoles.
Très bien.
La responsabilité de la presse. Je suis content d'être là avec les gens de la presse. Nous avons largué des gens dans les écoles pour qu'ils parlent des ripostes contre Ebola. Il faudrait que la presse, comme on l'a souligné ici, soit plus responsable. Que ce que telle presse peut dire, telle autre presse peut dire, ne se contredisent pas les gens de la presse pour qu'ils ne sèment pas la confusion dans la tête et de nos professeurs et de nos enseignants de l'école primaire et de nos enfants. Ce que nous sommes en train d'apprendre à nos enfants, ce que nous sommes en train d'apprendre à nos professeurs, à nos enseignants, il faut que la presse qui est impliquée dans ce système soit plus conséquente. Ça, c'est un. Dans les églises, on a rencontré les révérends pasteurs, les responsables des églises, on leur a parlé de l'Ebola. Il faut que ce que nous disons à nos chrétiens soit relayé par la presse. Que les gens comprennent Nous avons envoyé une équipe à Béni au niveau de l'église. Nous avons envoyé une équipe à Béni au niveau des écoles. Ils nous ont amené les résultats. Ebola existe. Il ne faudrait pas que la presse, qui est concurrentielle, vienne détruire ce que nous savons pour que les gens ne meurent pas à Goma avec la confusion entretenue par la presse. Que les gens de la presse parlent la même langue, parlent les mêmes mots pour qu'on lutte contre l'arrivée de l'Ebola ici à Goma. Merci.
Révérend pasteur, étant donné que vous suivez déjà plusieurs médias, est-ce que vous affirmez que la presse entretient le flou sur Ebola?
Je ne veux pas être conflictuel, je m'arrête là. Merci.
Oui, merci, moi c'est Jérémy Kiambo, je suis rédacteur en chef de la radio Taïna. Et que certainement il y a des histoires à succès. Nous avons notre reporter Aben qui nous a relaté juste quand la maladie ça s'est propagée pour la première fois là. Il y a des sujets qui nous ont dit comment ils ont réintégré la famille. Les gens qui ont guéri de la maladie du virus à Ebola, c'était comme un miracle à cette époque-là. Et des fois, sociablement, ça posait problème. Parfois, beaucoup de gens ne comprenaient pas que c'est possible que quelqu'un qui a été agonisant pendant plusieurs jours, qu'il vive encore avec d'autres personnes qui ne sont pas encore affectées. Et psychologiquement, il y avait encore d'autres petits problèmes. Donc, l'intégration sociale, ça posait parfois problème parce que les gens supposaient que c'est un revenant. Bon, alors, il y a deux petites questions. La première est de savoir, est-ce qu'il y a un fonds alloué pour la formation des journalistes par rapport à cette lutte?
Je souhaite aussi vous faire écouter une petite expérience d'un confrère journaliste qui est avec nous et qui a travaillé en Afrique de l'Ouest, à Guinée notamment. Jérémy Soupou, qui travaille pour aujourd'hui Internews, avec nous dans la production de l'émission, qui a partagé tout ce temps d'expérience de la lutte contre Ebola dans ce monde-là, où quand même il y a eu beaucoup de morts. Les chefs de division avaient fait allusion à cette épidémie. Mais Jérémy, comment ça s'était passé aussi là-bas?
Merci, monsieur le coordonnateur. Je pense que je vais associer les deux.
Oui.
Il y a des questions concernant la formation.
C'est ça.
Je voudrais quand même rappeler ici que le thème qui nous réunit et qui dit quel rôle pour les médias dans la riposte, le fond de la question, c'est de savoir, dès que vous, en tant que journaliste, en tant que responsable des médias, vous avez appris que l'épidémie d'Ebola avait été déclarée ici, dans votre zone, dans votre province, quelle est l'initiative ou quelles sont les initiatives personnelles que vous avez prises? Quel est ce directeur des programmes qui a bouleversé son programme pour faire place à l'épidémie d'Ebola? Quel est ce rédacteur en chef qui a décidé que à partir de maintenant, on va avoir au moins un reportage sur Ebola dans notre journal de lundi à vendredi, par exemple? C'est ça l'implication. Et ça se fait avant même l'intervention des partenaires que nous sommes. C'est ça le fond de la question. Qui a fait quoi à l'initiative personnelle jusqu'à maintenant? Et c'est à partir de là qu'on peut répondre à la question de Jacques pour dire qu'est-ce qu'on va améliorer à partir de ce qu'on fait déjà. Concernant la formation, mon homonyme a posé la question sur la formation. Je vais avouer que c'est vrai que nous sommes basés ici à Goma, mais nous avons aussi un bureau à Beni et nos activités sont beaucoup plus orientées vers Beni et Butembo parce que à l'époque, quand le projet avait été conçu, c'était que l'épidémie c'était là-bas. Donc, la plupart des activités vont se tenir là-bas. La formation est un défi majeur quand on parle d'Ebola. Moi, j'ai fait 2 ans à Internews en Guinée-Conakry pendant la crise d'Ebola. Nous avons travaillé dans la crise là-bas. Pourquoi la formation est importante? C'est parce qu'il y a des termes techniques. Et donc, le journaliste doit être formé simplement pour ne pas que j'aille faire des interviews avec un médecin et que je dise un cas suspect alors que c'est un contact. Pour ne pas que je dise, par exemple, c'est un cas confirmé alors que c'est probable. En posant ma question au médecin, il doit savoir que c'est quelqu'un. Moi, j'appelle ça le jargon de la riposte. Le journaliste est censé connaître ça. Vous savez, une épidémie, ça arrive, ça surprend tout le monde, personne n'est préparé, et donc au début, on tâtonne toujours. C'est la même chose qui est arrivée en Guinée. Mais je souligne simplement ce que vous aviez déjà dit, madame l'a dit tout à l'heure, l'accès à l'information. Quand on n'a pas d'accès à l'information, quand les acteurs de la riposte ne peuvent pas nous parler, qu'est-ce qu'on peut dire nous? Nous ne sommes pas des spécialistes et donc on va vers eux, c'est eux qui nous donnent les informations. Mais ils nous disent que le sujet est sensible, on ne doit pas en parler. C'est ça la contradiction. Et donc, vous savez que l'information, c'est comme de la nourriture. Quand vous avez faim, vous mangez ce qui se présente. Et quand le bon repas arrive après, il n'y a plus de place, quoi. Et donc, si on ne donne pas les vraies informations, ce sont les rumeurs qui prennent le dessus. Quand vous venez avec les bonnes informations après, mais la rumeur est déjà consommée. Absolument. Donc, c'est ça. Mais ce que nous avons essayé de faire en Guinée avec le ministère, avec la coordination de la riposte, est que nous avons fait vraiment un plaidoyer et le coordonnateur national de la riposte était amené à nous délivrer à nous, équipe d'Internews qui faisait le bulletin, il nous a délivré une autorisation qu'on devait montrer à tous les acteurs. Il a dit clairement dedans, si vous voyez cette équipe arrive, bon, je reviens sur la confiance, hein, il faut créer la confiance, si vous voyez cette équipe arrive, il faut répondre à leurs questions. C'est comme ça que ça nous a facilité la chose. Je partage avec vous une expérience, je dirigeais une équipe de journalistes, un jour, on arrive au centre de traitement Ebola parce qu'on avait été alerté qu'il y avait des guéris qui sortaient. Et puis par hasard, il y avait un jeune de 28 ans. On lui a posé la question, mais comment tu as fait pour survivre? Il a dit, vous savez, moi j'aime écouter la radio. Et quand j'étais au CTE, j'ai demandé à ce qu'on me donne un poste. Et pendant que j'étais sur mon lit là-bas au CTE, j'ai écouté la voix de quelqu'un que je connaissais qui avait contracté Ebola, qui a été guéri, qui donnait son témoignage à la radio. Et là, je me suis dit que moi aussi, je peux survivre. Et donc, c'est ça la puissance de l'information. Quand on demande aux journalistes de travailler, la riposte, elle n'est pas seulement médicale, mais c'est aussi en termes d'information et de communication, parce que l'ignorance, ça tue. Merci.
Merci beaucoup, Jérémy, pour cet éclairage. Et pour clôturer cet échange, les débats vont se poursuivre, je suis sûr. Alors, Monsieur Rachid Toumboula, il y a déjà des recommandations qu'on a orientées vers le gouvernement.
Oui.
Il y a des points que le gouvernement est censé contrôler. Les gens ne se lavent pas les mains, tout ça.
Oui,
les gens qui viennent à votre véhicule. Qu'est-ce que vous recommandez à tous les médias qui appuient la province, notamment dans l'amélioration du quotidien du Congolais?
Je vous remercie. Je crois que cet exercice est salutaire pour la communauté. Au niveau de l'aéroport et même des autres points de contrôle, je crois qu'on en parlera à un niveau plus élevé pour qu'un ordre soit donné et obliger tout le monde. Parce que, en fait, celui qui est dans une voiture peut être malade d'Ebola et il va contaminer tous les autres. Et la communauté fait comment? Donc, moi, je voudrais terminer par dire deux petites choses. Le support de l'information, c'est la langue. Je crois que vous devez vous féliciter. Mais le tort d'un homme intelligent, c'est de croire qu'il est infaillible. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le conseiller du gouverneur. Merci à vous, madame Rosalie. Merci à monsieur Eric et à monsieur Etienne d'avoir accepté de venir partager avec nous tout ce que vous savez sur Ebola. Merci à tous les directeurs des radios qui sont présents avec nous, les chefs de programme, les rédacteurs à chef, les journalistes. Merci aussi à tous les chefs des organisations, les représentants des organisations de la société civile qui sont avec nous. Nous avons fait des échanges fructueux sur Ebola. Merci à Internews qui nous a permis d'organiser matériellement et même scientifiquement cette activité. Comme cela a été signalé par tout le monde, les médias sont un canal qui va sûrement aider nos communautés à avoir le message. C'est maintenant notre question. Et Ebola, il faut considérer que ça vit avec nous. même si Ebola n'est pas encore à Goma. Mais Ebola est dans nos murs, aussi comme notre engagement dans la lutte contre Ebola. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup.